Le pasteur Marcelo apprend beaucoup de choses sur Dieu.
On est vraiment bénis pour la journée.
Grâce à Casarem, je suis ici, je sors du 78. Sachez que cette œuvre-là, je demande vraiment à Dieu de la bénir encore.
Et l'homme de Dieu a surtout parlé sur les familles. Donc surtout nous en Europe, on vit dans le brisement des familles et tout. Pour moi, vraiment, j'ai reçu beaucoup de choses.
J'ai été touchée vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Parce qu'à travers son serviteur, il nous a vraiment bien expliqué la façon que l'ennemi est en train de détruire nos familles.
Je veux dire encore plus, il nous a vraiment beaucoup apporté. C'est un pasteur déjà que nous, venant de Saint-Nazaire, on suit tous les jours.
And it was really amazing to be here. And I thought it wasn't a waste of time coming here. It was really amazing. I said thank to God for it.
Lilo banal biki en tout cas.
Le message du pasteur, il a été très enrichissant pour les familles, pour les personnes qui sont mariées et pour les célibataires aussi, pour nous les enfants aussi.
Voilà, c'était merveilleux, même la vérité nous a vraiment affranchis, comme la Bible le déclare.
Je conseillerais de suivre Casarema sur Internet et d'aller plus vers le Seigneur, de venir à l'église, parce que c'est quelque chose de très important.
Il est temps de se lever pour récupérer ce qui nous a été volé par l'ennemi.
Et là maintenant, tu as abandonné ta femme parce qu'elle est colérique, tu as abandonné ta femme parce qu'elle est insoumise, et puis tu as épousé une autre femme. Dieu ne reconnaît pas cette deuxième femme. Jusque-là, tu es adultère, même si on t'a béni dans une église qui a permis cela, Dieu ne reconnaît pas cette deuxième femme, il te voit avec l'autre. Et Dieu peut ressusciter ton mariage, tu divorces pour te remarier avec celle que tu avais épousée. Et pire, lorsque les hommes de Dieu se livrent à l'ivrognerie et prêchent, remplis de vin, prophétisent, remplis de vin. Tu n'as pas besoin d'être rempli de vin pour que Dieu t'utilise. Sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu as un pasteur qui s'enivre, il n'est pas un modèle. Quitte une telle église. Mais si ta femme te pardonne ton adultère, pardonne son adultère aussi. Et certains s'enivrent à la maison. Ils ne vont pas dans les boîtes, ils ne vont pas dans les bars, mais ils s'enivrent à la maison. Que tu t'enivres à la maison ou dans un bar, c'est toujours de l'ivrognerie. J'ai entendu des hommes qui disent, moi je ne vais pas dans les boîtes, je bois à la maison. C'est comme si tu dis, moi je ne meurs pas en dehors de ma maison, mais je meurs à domicile. Que tu meurs à domicile ou en public, c'est toujours la mort. Tu ne peux pas parler à ton père comme à un ami. Non, c'est papa. C'est papa. Casse-toi. Tu me saoules. Lâche-moi les baskets. J'en ai marre de vous. Même si tu pêches en français, c'est le péché. Alors, bien-aimé, être intelligent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il faut être fidèle à son mari, fidèle à sa femme. Tes affaires peuvent dégringoler parce que tu fais pleurer la femme de ta jeunesse.
www.casarema.fr.
Je te vois plus du tout à qui c'est court. Je proclame que tu es Dieu.
Oh, car je n'ai pas besoin de
voir pourquoi.
Comme l'oiseau
au soir du printemps.
Bien-aimé, Dieu est bon. T'as connu, heureusement que tu es là, Jésus. Le Dieu de la restauration des familles. Le Dieu qui aime la famille. Le Dieu qui bénit les familles. Le Dieu qui soutient les familles. Le Dieu qui rétablit les familles. Le Dieu qui ressuscite même les familles. Non, moi, à ta place, je l'acclamerai encore. Je l'acclamerai. Je l'acclamerai. Mais sans plus tarder, je voudrais laisser à la personne qui porte la cruche. Certainement, Dieu a commencé un travail dans les familles. Si nous voulons avoir une église forte, les familles doivent être fortes. Certainement, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, le regard de quelqu'un va changer par rapport à sa famille. Quelqu'un va changer la redéfinition de la famille. Tu regarderas ton père différemment. Tu regarderas ta mère différemment. Même tes frères, bien-aimés, avec qui tu as eu des écueils, qui t'ont fait souffrir, un regard d'amour a changé. Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur? Quelqu'un dit, Seigneur, j'aime ma famille. J'aime ma famille. J'aime ma famille. J'aime ma famille. Parce que c'est un don de Dieu. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. Mais c'est Dieu qui a choisi cette famille pour nous. Acclame Dieu pour la famille que tu as. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Voilà. Homme de Dieu. Encore une fois, un grand merci parce que le message d'hier a été assez percutant. Percutant parce que ça concerne l'essentiel même de la vie d'une personne, la famille. Voilà pourquoi le diable s'attaque aux familles. Il s'attaque aux familles simplement parce que il veut égorger, détruire trop de culpabilité, trop de problèmes. Mais merci au Seigneur qui nous a mis à cœur ce fardeau, justement avec un témoignage poignant de votre propre vie. Et c'est mieux quand ces choses-là se passent dans notre vie. Et aujourd'hui, Dieu va permettre qu'il finisse le message qu'il a commencé hier. Notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Il faudrait que ce ne soit pas vraiment une prédication en plus que tu m'as un petit repas. Non. La Bible dit, heureux êtes-vous qui connaissez ces choses. Mais pourvu que vous puissiez le pratiquer. Amen. Alors, la sœur Massolette avec son épouse, Maman Blanche. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce couple merveilleux qui sert le Seigneur? Voilà. Alors, sans plus tarder, bien-aimé, je voudrais inviter le pasteur Marcelo, bien-aimé, et tout en acclamant le Seigneur, et lui laisser le soin de continuer ce travail.
Ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce.
Salut au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin?
Dites-lui, je te souhaite une bonne fin d'année. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. Je remercie Dieu pour la grande participation et nous croyons que Dieu permettra que l'année prochaine nous puissions aller de gloire en gloire. Amen. Merci les studios Casarema qui m'ont permis de revenir encore cette année. Et je remercie aussi le couple Mosengo de nous avoir permis d'annoncer la parole ce matin. Car la chair est chère. Amen. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ, des pasteurs qui prêchent dans des églises, qui amènent les fidèles, avoir des gens qui vous invitent, ça est un grand signe de confiance. Amen. Je remercie mon épouse qui m'a accompagné. Amen. Quand j'étais venu, j'étais sans elle, mais je me sens mieux quand elle est là. Ça me permet même de me reposer. Quand elle commence à dormir, je dis, elle est fatiguée, il faut me laisser partir. Comme ça, j'en profite pour aller dormir. Comme on l'a dit, hier, je n'ai pas pu finir. Et aujourd'hui, je vais faire l'effort. Pas de finir la parole de Dieu sur la restauration de la famille, mais c'est que j'ai reçu de Dieu. Amen. Et ce peut aussi que j'ai dit certaines choses qui vous ont choqué, mais allez méditer et le Seigneur vous dira que c'est de sa part que nous avons parlé pour votre bénédiction. Prions et demandons à Dieu l'inspiration, l'onction sur sa parole ce matin. Prions au nom de Jésus.
Ton amour m'a touché. Ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé. Je suis comblé, 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 comblé,
comblé, comblé, comblé, je suis comblé, 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 je suis comblé. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. Ami précieux, ami, ami précieux, Jésus, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation, Jésus, tu es digne de louange, tu es digne. Tu es digne de louange, mon Jésus, ma vie. Alléluia. 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 Amen. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais maudit, tu m'as béni. Grâce à toi, je verrai Dieu. Par ta mort, je revis. Je revis, je revis, je revis, je revis. Merci Jésus pour ton amour à la croix. Merci pour ton sang versé. Merci de nous avoir guéri, d'avoir guéri nos cœurs, de nous avoir donné la force d'aimer et de pardonner. Je demande Seigneur la plénitude de ton esprit. Je demande ta parole. Je demande Père ton cœur. Aide-moi à dire ce que tu veux que je dise, et je prie que tu touches ces cœurs. Je détruis toute œuvre de l'ennemi, toute opposition maléfique, au nom de Jésus. Je libère l'atmosphère spirituelle. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire 1, 2, 3, 4 versets. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Vous y êtes? Josué 24, verset 15. La Bible dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième passage que nous avons lu hier, Actes 6, 31. Actes 16, 31. Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Troisième verset, Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. La Bible dit, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Amen. Dans d'autres versions, même on dit que « Frappe ton fils afin que le mal s'éloigne de lui. » Dieu n'est pas contre la fessée. Amen. Dans votre pays, on arrête les parents rien que pour ça. Nous, c'est ce qui nous a aidés. Les fessés. Amen. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui ne sont venus que ce matin, qui n'étaient pas là hier. Ah, ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. Amen. Nous sommes en train de parler de la restauration de la famille et je vais redéfinir pour vous la restauration et la famille. Et ensuite, je vais donner l'exemple de trois familles détruite et comment est-ce que Dieu arrive à restaurer une famille. D'accord? Restauration vient du verbe restaurer. Restaurer qui veut dire rendre à quelque chose ou à quelqu'un ce qu'il a perdu. Et donc là, nous sommes en train de rechercher au devant de Dieu que nos familles puissent reprendre des choses qu'elles ont perdues. La paix, la joie, l'unité, l'harmonie, la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Restauration. Dans la restauration, il y a la pensée de réparer, de redonner la force, d'arranger, de guérir. Et hier, Dieu a guéri beaucoup de familles, de sauver, de relever, mais aussi de ressusciter. Il est possible que tu t'es sois séparé de ta femme, que tu te sois séparé de ton mari. Après 10 ans, après avoir entendu ce message, tu vas chercher ta femme et tu l'épouses à nouveau. Je le crois.
Parce que Dieu ressuscite
quand il restaure. Bien-aimé, lorsque le réveil a commencé, c'est ce qu'on a vécu à Kinshasa. On a vu des hommes qui ont abandonné leur femme 10 ans, 15 ans. Après avoir entendu la parole de Dieu, sont allés chercher la mère de ses enfants. Ah oui, on a vu cela. Et je vous le souhaite. Et je demande que Dieu le fasse dans ta vie. Tu as jeté une femme quelque part. Tu as jeté des enfants quelque part. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Dieu sait que c'est ta femme. Dieu sait que ce sont tes enfants. Même si aujourd'hui tu mènes une si belle vie, Dieu sait. Et si même ton divorce n'a pas eu des preuves bibliques, la femme que tu as n'est pas ta femme. Tu dois reprendre cette femme-là, car on ne divorce pas pour des raisons d'humeur. C'était pas prévu, mais je sens que je dois le dire. Ah oui, lorsque tu divorces pour des raisons qui ne sont pas bibliques, la seule raison, c'est l'adultère. Et quand je dis adultère, c'est aussi l'adultère de l'homme. Et tu n'es pas obligé de divorcer. Tu peux ou tu ne peux pas. Mais je vous demande de pardonner l'adultère de vos femmes. Car vous, les hommes, vous commettez plus l'adultère que les femmes. Mais les femmes vous pardonnent, mais vous ne pardonnez pas. Mais vous dites, c'est aux femmes qu'on a parlé. Mais c'est parce que ce sont les hommes qui ont posé la question. Mais si ta femme te pardonne ton adultère, pardonne son adultère aussi. Mais si les femmes pardonnent l'adultère, pourquoi les hommes vous ne pardonnez pas l'adultère? Dieu t'a pardonné ton adultère, n'est-ce pas? Il t'a pardonné ton impudicité, ta sorcellerie, ton occultisme. Pourquoi tu ne pardonnes pas l'adultère de ta femme? Ce n'est pas que j'encourage l'adultère, mais j'encourage le pardon. Alléluia. Et là maintenant, tu as abandonné ta femme parce qu'elle est colérique, tu as abandonné ta femme parce qu'elle est insoumise et puis tu as épousé une autre femme. Dieu ne reconnaît pas cette deuxième femme. Jusque-là, tu es
adultère, même si on t'a béni dans une église qui a permis cela, Dieu ne reconnaît pas cette deuxième femme, il te voit avec l'autre. Et Dieu peut ressusciter ton mariage, tu divorces pour te remarier avec celle que tu avais épousée. Je sens qu'on veut me lapider ce matin. Heureusement que dans les églises, les carreaux ne deviennent pas des pierres. Amen. Et la famille. La famille, c'est la cellule de base de la société. C'est la cellule de base de l'église. Car tous, nous provenons des familles. Elle est constituée d'un père, d'une mère, mais ça doit être une mère, ça doit être une femme. Pas d'un père homme et d'une mère homme et d'un père femme et d'une mère femme. Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre le mariage homme-homme et femme-femme. Et même si vous adoptez des enfants, ce n'est pas une famille, c'est une perversion. Même si les gouvernements actuels acceptent cela, cela est inacceptable et même les chiens ont un enseignement à nous donner. Jamais un chien ne se marie ou ne sort avec un chien. Les chiens ne sont pas homosexuels, mais les hommes sont homosexuels. L'homme perverti est moins qu'un animal. Même s'il y a des raisons qu'on donne, je suis né ainsi, on ne naît pas homosexuel, on ne naît pas lesbienne. C'est un démon, c'est une perversion. Et je vous assure, chaque fois que j'ai prié pour les homosexuels, des démons se sont manifestés. Si c'était génétique, pourquoi est-ce que les gènes parlent? Je ne sens pas, les gènes ne parlent pas. Alléluia. Il y a la famille restreinte, constituée du père, constituée de la mère et des enfants, adoptée ou engendrée. Et là, j'ai dit qu'il est possible que Dieu te donne un enfant que tu n'as pas engendré, mais que tu as adopté. La plupart des temps, avec les enseignements des miracles dans les églises, nous ne pensons pas adopter alors que Dieu nous a adoptés. Dieu peut te donner un enfant que tu as engendré. Il peut aussi te donner un enfant adoptif. Amen. Le couple Josué, par exemple, que j'ai béni, est né après 4 ans de mariage. Madame a suivi la prédication, elle a cru. Et elle a eu une apparition de quelqu'un et puis elle a eu un bébé. C'est un miracle. Mais je crois aussi que Dieu peut te donner de l'amour pour un enfant que tu n'as pas engendré. Alléluia. Il y a aussi la famille élargie, constituée des cousins, des tantes, constituée des oncles, des demi-frères, des nièces, des grands-parents. Et cette famille élargie ne doit jamais détruire la famille restreinte. Mais la famille restreinte aussi ne doit pas se couper de la famille élargie. Amen. Lorsque nous lisons Genèse 9, versets 20 à 27, il y a une famille, la famille de Noé, qui est remplie d'enseignements. Noé est un homme que Dieu a choisi. Lorsque Dieu a voulu détruire la terre, il appelle Noé. Et quand il appelle Noé, il lui demande de bâtir une arche. Et Dieu sauve sa famille au travers de cette arche. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque Noé sort de l'arche, il plante une vigne, il prend le vin et il s'enivre. La famille de Noé est un échantillon des familles des ivrognes, parce que l'ivrognerie se manifeste pour la première fois dans la parole par Noé. Amen. C'est une famille d'ivrognes. Quelle est votre attitude face à l'alcool? Cher père, j'aimerais vous dire qu'un enfant qui a un père ivrogne souffre. Une femme qui a épousé un homme ivrogne souffre. L'ivrogne termine tout son argent dans la boisson. Et on n'est pas fier de présenter un père ivrogne. Lorsqu'on va avec lui dans une fête, on intercède pour qu'il n'ajoute pas un deuxième verre. On sait déjà ce que papa fait dans les fêtes. Il s'enivre, il se bat, il insulte et il devient une honte pour toutes les familles. Et les ivrognes sont des égoïstes. Les ivrognes sont des vrais égoïstes. Il peut boire et il s'enivre. Il ne s'occupe pas de la nourriture. Il ne s'occupe pas des vêtements. Il ne s'occupe pas du loyer. Et l'ivrogne attire des ivrognes dans la maison. Car il devient l'ami d'autres ivrognes. Que Dieu libère tous les ivrognes qui sont en ce lieu. Et certains s'enivrent à la maison. Ils ne vont pas dans les boîtes, ils ne vont pas dans les bars, mais ils s'enivrent à la maison. Que tu t'enivres à la maison ou dans un bar, c'est toujours de l'ivrognerie. J'ai entendu des hommes qui disent, moi je ne vais pas dans les boîtes, je bois à la maison. C'est comme si tu dis, moi je ne meurs pas en dehors de ma maison, mais je meurs à domicile. Que tu meurs à domicile ou en public, c'est toujours la mort. Et pire, lorsque les hommes de Dieu se livrent à l'ivrognerie et prêchent, remplis de vin, prophétisent, remplis de vin. Tu n'as pas besoin d'être rempli de vin pour que Dieu t'utilise. Sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu as un pasteur qui s'enivre, il n'est pas un modèle. Quitte une telle église. L'ivrognerie est entrée dans l'église aujourd'hui. Les hommes de Dieu s'enivrent, les chrétiens s'enivrent et ils disent c'est parce que j'ai des soucis. Si Jésus-Christ ne peut plus résoudre tes problèmes et que c'est la boisson qui peut te donner la paix, alors c'est la boisson qui est devenue ton Dieu. Quelle insulte à Dieu. J'avais tellement de problèmes que je devais m'enivrer. Il s'est enivré. Et quand il s'est enivré, la Bible nous dit qu'il l'a enlevé ses vêtements et son fils cadet Charme entre dans la tente, il trouve papa nu, c'est ça. Une famille de scandale. Une famille de scandale. Une famille remplie de scandale. Votre famille, c'est comme un téléfilm. C'est comme une série télévisée. C'est scandale après scandale. Chaque mois, il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi maintenant? Papa a tapé maman. Et demain, c'est quoi? C'est maman qui a tapé papa. Une famille de scandale. Le fils cadet voit la nudité de son père. Des hommes qui battent leurs femmes au point de les déshabiller devant tous. Des hommes qui sortent avec la petite sœur de leur femme. Quel scandale! Et dans les familles, il y a des scandales. Et cachés, très bien cachés, mais des scandales! Et lorsque le fils voit la nudité de son père, au lieu de couvrir cette nudité, il va au dehors et il va crier, « J'ai vu la nudité de papa. » Une famille dans laquelle les enfants ne savent pas protéger leur père. Ils sortent dehors et ils révèlent les faiblesses de leur père. Ne le faites pas. Moi, si je le fais, c'est seulement pour prêcher. Mais après, je montre la grandeur de mon père qui m'a aidé. Mais n'humilie jamais ton père, n'humilie jamais ta mère. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père, honore ta mère. Même si tes parents sont des sorciers, ce sont eux qui t'ont engendré. Même si ton père est un païen, c'est lui qui t'a engendré. Ta mère pouvait te tuer, mais elle t'a laissé vivre. Et c'est étonnant aujourd'hui, les enfants, qui facilement arrivent à dire que maman est une sorcière. Cette sorcière pouvait te bouffer, pouvait te tuer. Je vis avec un couple qui a un petit bébé. Tout le temps, on protège cet enfant. Mais si cette mère est sorcière, elle peut jeter cet enfant. Mais après 40 ans, tu dis que maman est sorcière. Mais elle pouvait être sorcière quand tu étais un bébé. Elle t'a allaité avec le lait sorcellerie que tu n'es jamais devenu sorcière. Quelle ingratitude. Nous comprenons la valeur des parents lorsqu'on a des enfants. Je vois tous ces sacrifices que j'ai faits pour leurs études. Et demain que mon fils puisse dire que je suis sorcier, sans que je le maudisse, je dis sans que je le maudisse, la malédiction elle-même va venir. Parce que je n'ai pas besoin de le maudire. L'ingratitude maudit. Ton père t'a éduqué, ton père t'a élevé, mais aujourd'hui, tu l'as rejeté, tu l'as abandonné, tu ne penses pas à lui, tu honores d'autres personnes, tu honores ton oncle qui est riche, parce que ton père est pauvre. Certains qui présentent même leur oncle au lieu de présenter leur père. C'est papa, c'est pas papa, c'est l'oncle. Mais l'oncle est présentable, papa n'est pas présentable. Présente ton père, même si c'est un domestique. Présente ton père, même si c'est un pauvre. Présente ta mère, même si elle n'a pas beaucoup étudié. C'est ta mère. Même si maman n'est pas belle, c'est maman. Même si papa n'est pas en costard, c'est papa. Alléluia. Et il va révéler la nudité de son père. Des enfants qui vont révéler les faiblesses de leurs parents. Et qui même arrivent à les insulter. Insulter ses parents. Insulter. Ton père parle, tu parles, et puis tu fais ça. Hey! Chers bien-aimés, je vous demande de faire un tour en Afrique. Vous aurez quand même l'onction de respecter les parents. Parce que dans ce domaine-là, ça en Afrique, Dieu nous a donné. Tu ne peux pas parler à ton père comme à un ami. Non, c'est papa. C'est papa. J'entends ici, papa, lâche-moi les baskets. Papa, lâche-moi les baskets. Tu me saoules. Tu me saoules. Casse-toi. 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 Tu me saoules. Lâche-moi les baskets. J'en ai marre de vous. Même si tu pêches en français, c'est le péché. J'en ai marre de vous. Je me tire. Les enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as là? C'est ma vie. C'est moi qui te l'ai donné. Mes enfants ne viendront en Europe qu'en vacances. Ils vont grandir avec moi au pays. Ici, 2 semaines. Le peu de temps qu'ils ont fait ici quand ils sont rentrés, c'était « Eh ben, vous les parents, vous ne comprenez pas. » J'ai dit « 2 semaines !» Petit. C'est comme s'il y a une onction dans votre pays. Hein? Mais des parents qui maudissent. C'est pas Cham qui a poussé Noé à s'enivrer, c'est lui-même qui s'est enivré, c'est lui-même qui a planté la vigne. Mais son fils, c'est vrai, a vu sa nudité. Ce n'était pas sa faute, c'était un accident. La faute, c'était de divulguer cette nudité. Mais le père, quand il sort de son ivresse, il maudit son fils. Écoutez la malédiction. Que ton fils devienne l'esclave des esclaves de ses frères. Ah, Noé! Rien que pour ça. Mais quelle malédiction! Et il y a des parents maudisseurs. Ils ne savent que maudire. Pour un petit rien, tu es bête. Pour un petit rien, toi, tu iras nulle part dans la vie. Pour un petit rien, si ce n'est pas moi qui t'ai engendré, nous allons voir. Pour un petit rien, dans ta vie, tu souffriras. Et en Afrique, c'est si je ne t'ai pas enfanté, des mamans sorcières, des papas sorciers. Ton enfant blesse ton cœur, maîtrise-toi, parce que si tu parles négativement, tu peux détruire sa destinée. Il y a des enfants qui souffrent toute leur vie, il n'y a pas un sorcier dans leur vie. C'est une mauvaise parole du père, de la mère prononcée sur sa vie. Bénissez vos enfants, bénissez vos enfants, bénissez vos enfants. Même si ton enfant te blesse, ne détruis pas sa destinée par une parole. La parole d'un père, d'une mère, a une grande puissance. Je vous assure, si Dieu me bénit dans le ministère, c'est parce que mes parents bénissent mon ministère. Chaque fois avant de voyager, je dis « Papa, je voyage. Maman, je voyage. » Et ils prononcent toujours des paroles de bénédiction. Que Dieu bénisse ton départ et ton arrivée. Que Dieu te donne de gagner les âmes. Que Dieu te protège et qu'il garde ta famille. Que Dieu élève ton ministère. Chaque fois que je voyage, j'appelle mon père, j'appelle ma mère. Même s'il y a des intercesseurs qui jeûnent, j'appelle papa et maman. Mais je suis très âgé. Mais je reconnais que... Même si j'ai l'onction, il y a un homme et une femme qui m'ont engendré et surtout aujourd'hui, ils croient en Jésus. Ils peuvent bénir ma vie, mais ils peuvent aussi me maudire. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne croient pas en eux à cause de leurs parents. Je peux accepter qu'un voisin du quartier me dise que je suis bête. Mais quand c'est mon propre père qui me le dit, c'est grave. Comment je vais douter? Il m'a vu naître, donc je suis bête. Si ta propre mère qui t'a engendré te dit que tu es laide, est-ce que tu vas douter? C'est elle qui t'a vu, donc tu es vraiment laide. Regarde là, tu marches comme si tu reculais. Et tu vois une belle fille qui marche toujours la tête en bas. Mais tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Maman m'a dit que je ne suis pas belle. Mais tu es une belle femme. Non, je ne suis pas belle. Ma mère m'a dit que j'ai un long cou comme une girafe. Et il y a des parents qui ont un don pour blesser leurs enfants. C'est comme s'ils ont des démons à côté d'eux qui leur disent, insulte, dis ça, dis-nous ça. Donc, si elle t'insulte, tu as des insomnies. Et elle sait, je veux t'insulter, arrête, je veux t'insulter. Elle connaît sa dimension, son onction. Et qu'est-ce qui arrive? Demain, quand les enfants deviennent grands et que toutes tes paroles les ont combattues, mais ils sont arrivés à vaincre ces paroles et ils ont grandi, ils sont devenus grands et Dieu les a élevés. Tes paroles mauvaises ne se sont pas accomplies, ces enfants vont se venger. Ils vont te prouver que tu n'es pas Dieu et que cela ne s'est pas accompli et ils vont s'attacher à des personnes qui n'ont rien fait pour elles, pour eux. Et c'est ce qui arrive après des années. Quelqu'un devient un grand homme. Il rejette son père parce que son père n'a fait que le maudire. Supposez qu'un jour Cham soit devenu un grand homme. Vous pensez qu'il allait reconnaître Noé? Tu as dit que je serais l'esclave des esclaves de mes frères. Mais aujourd'hui, je suis devenu le roi de mes frères. Apprenez à dire des bonnes choses. Je dis à mes enfants, vous êtes intelligents. Vous êtes belles. Vous êtes beaux. Je le dis et je le dis pourquoi? Si je ne le dis pas, qui va le dire à ma place? Si je n'aime pas mon fils, qui va l'aimer à ma place? Si je n'aime pas ma fille, qui va l'aimer à ma place? Bien-aimés, apprenez à aimer vos enfants et les bénir. Même s'ils ne réussissent pas à l'école, ce n'est pas une raison pour dire qu'il est bête. Il n'a pas compris la matière. Il n'a pas compris la leçon, mais ce n'est pas qu'il est bête. Je me souviens, lorsque dans ma famille, les études étaient Dieu. C'est-à-dire tu es respecté en fonction de tes notes. Si tu as 8, 9, 7, c'est bon. Mais si tu as 4 sur 10, eh ben, tu deviens la risée de toute la famille. Il m'est arrivé une fois, j'étais 3e ou 4e de la classe et c'était la proclamation. Et avant moi, c'était une fille. Et mon père me disait, comment une fille peut être plus intelligente que toi? Premier de la classe, un garçon. Deuxième, une fille. Troisième, moi. Mon père a démarré les parties. Je suis rentré à pied. Pourquoi je suis troisième de la classe? Et tu t'attends, hein? Tu t'attends à ce qu'on puisse te tabasser. Pourquoi? Tu étais troisième de la classe. Et si tu es septième, aïe, 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 ne rentre même pas. Tu tournes en rond parce que tu n'as pas eu des bonnes notes. On honore l'enfant qui est intelligent, on méprise l'enfant qui n'a pas des bonnes notes. Regarde-lui, regarde-lui, regarde-lui. Il dit, tu seras l'esclave de tes frères. Ce sont des familles dans lesquelles il y a une grande différence. Il y a des très riches et des très pauvres. As-tu le souci d'élever tes frères? Lorsque tu deviens millionnaire, as-tu le souci que ton frère devienne millionnaire? Ou tu te plais à être l'unique, le véritable, le Jésus de ta famille? Il y a des familles dans lesquelles les riches se plaisent à être les seuls riches parce qu'ils se plaisent à ce qu'on leur demande tout le temps. Ainsi, ils deviennent les Jéhovah Jirés. Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Il y aura un grand décalage entre toi et tes frères. Et il y a des familles comme ça. Il vit dans la pauvreté, mais son frère est un millionnaire. C'est une honte pour toi que tu sois millionnaire, mais que ton petit frère manque quoi manger. C'est une honte que tu puisses mener une si belle vie, jetant la nourriture, jetant les vêtements, pendant que les membres de ta famille manquent de tout. Et vous qui êtes venus dans ce pays et qui avez oublié vos frères et sœurs, vous êtes en train de commettre une grande erreur. Pendant que vous êtes en Yoji, vous êtes sapés comme tout. Un manque même 10 dollars pour payer un loyer. Je les ai oubliés. Dieu n'a pas oublié que tu es sorti d'une famille. Alors que tu as tout, il y a des membres de ta famille qui vivent comme des esclaves. Alors que tu as tout, il y a ton petit frère qui ne sait même pas étudier, mais tu te permets d'acheter des vestes à 1000 euros. Ce qui peut payer ses études à l'université, mais tu te permets de payer des vestes à 1000 euros, des crocos à 500 euros dont tu n'as même pas besoin. Égoïsme. Tu n'es pas seul sur cette terre. Il y a aussi Cham. Même si papa l'a maudit, c'est ton frère. Et comme on n'aime pas aider, nous avons trouvé une solution. Taxer tout le monde de sorcier. Comme ça, notre égoïsme trouve des raisons. C'est un sorcier. Même si tu donnes un sorcier, Dieu te bénit. Car tu as béni la créature de Dieu. Ainsi, nous voulons discerner tout le monde et discerner même sans avoir le don de discernement des esprits. Mais c'est parce que nous sommes égoïstes. C'est pourquoi nous aimons tous les enseignements qui nous empêchent de partager. Quand on vient vous enseigner, il faut donner aux pauvres, vous n'aimez pas. Mais si on dit que les pauvres sont des sorciers, vous dites Amen. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Vous connaissez ce verset? Mais vous ne connaissez que le verset de états d'âme. C'est un sorcier qui va me bloquer. Non, bien-aimé, je donne pour la gloire de Dieu. Même si tu amènes mon argent dans le deuxième monde, le Seigneur me bénira. Vous discernez tout, mais vous ne discernez jamais le billet d'euro que vous avez. S'il y a des signes francs-maçonniques, vous les gardez bien dans vos maisons. Ça n'ouvre pas des portes d'entrée au démon. Vous ne discernez jamais le billet de dollars. Alors qu'il y a le triangle franc-maçonnique, ça n'ouvre jamais les portes au démon. Mais qui ouvre les portes des démons? C'est lorsque tu donnes à ton frère. Égoïsme caché derrière la spiritualité. J'appelle cela la sorcellerie pentecôtiste. Des gens qui prient et qui ne partagent pas. Au nom de Jésus. Parlons de la famille d'Isaac. Genèse 25, 21 à 34. La Bible nous dit que Dieu avait choisi Jacob.
Malgré qu'il était le petit frère,
il devait dominer sur son grand frère Ésaü. Mais Jacob n'a pas su attendre que la prophétie se réalise. Et il a cherché un raccourci dans Genèse 25, versets 21 à 34, et dans Genèse 27, versets 1 à 46. Il a cherché un raccourci. Il a forcé la main de Dieu pour prendre la place de son frère.
Cela symbolise
l'impatience, les raccourcis. Une famille dans laquelle les gens ne savent pas attendre, qui aiment voler. Est-ce que je peux vous poser la question? Pouvez-vous rendre compte de l'argent que vous avez? Pouvez-vous rendre compte de l'argent que vous avez? Pouvez-vous rendre compte des biens que vous avez? Jacob avait eu ce qu'il avait eu parce qu'il avait vendu à Ésaü un bol de potage pour avoir le droit d'aînesse. Quelle escroquerie! Comment as-tu ce que tu as? Il y a des familles des escrocs et ils se plaisent à escroquer. Des chécouleurs, mais qui prient. Vous faites des faux dollars, des faux billets, vous priez, des faux chèques, vous priez. Et puis vous amenez la dîme. Dieu n'a que faire de la dîme d'un voleur. Ne donne plus jamais ta dîme, voleur. Cher voleur, ne donne plus la dîme. Cher voleur, ne donne jamais plus ta dîme. Dieu ne fermera pas ses yeux sur ton vol parce que tu as donné la dîme. D'ailleurs, arrête de donner la dîme. Ne donne plus. Les familles ont ment pour avoir l'argent. Combien de fois vous mentez pour avoir l'argent? Combien de fois vous mentez? Vous changez même d'identité pour avoir l'argent. Êtes-vous fier de l'argent que vous avez? Pouvez-vous témoigner sur votre argent, sur cette chair? Pouvez-vous vous tenir là et dire, j'ai eu 100 000 euros de telle et telle manière sans sauter certaines étapes? Nous mettons tout sous la bénédiction de Dieu. Mais des fois, derrière cette couverture appelée bénédiction de Dieu, il y a beaucoup d'escroqueries, beaucoup de vols. Pourquoi? Parce qu'on est impatient. On veut vite, vite réussir. Dieu n'est pas comme le diable qui te bénit sans tailler ton caractère. Dieu taille d'abord ton caractère et ensuite il te bénit. Mais le diable te donne rapidement parce qu'il veut que ceux qui te donnent te détruisent. Mais Dieu te forme d'abord, ensuite il te bénit. Mais nous sommes souvent impatients. C'est pourquoi nous volons, c'est pourquoi nous mentons. Jacob devait être plus grand. C'était sa destinée. Mais il était impatient. Et il a employé, emprunté des chemins tortueux. C'est une famille dans laquelle il y a des préférences. Papa qui aime plus cet enfant et maman qui aime plus cet autre-là. Jacob était l'enfant préféré de sa mère, Rebecca. Et Ésaü était l'enfant préféré d'Isaac. Et il y a des familles comme ça. Les enfants de papa, les enfants de maman. Les autres enfants savent que papa préfère tel plus que nous. Et tu utilises ça. Moi, j'étais l'enfant préféré de ma mère. Mes frères le savaient. Mon père le savait. Et ça avait créé des problèmes. Et ça crée des problèmes. À un niveau où quand ma mère me servait la nourriture, elle sortait ses meilleurs verres et ses meilleures assiettes. Et mon père commençait à être jaloux de moi. Quand je mangeais, je sentais son œil. Et mes parents, mes frères disaient à maman, « Ton fils est malade, ton fils est malade. » Et quand j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai fui cet amour et je suis allé habiter chez moi à l'âge de 24 ans. Je suis allé souffrir tout seul parce que Dieu devait former mon caractère, car les enfants gâtés ne deviennent pas grands. Chers enfants gâtés, préférés de papa et de maman, souvent vous échouez dans la vie parce que la vie ne va pas te gâter. La vie est un professeur qui donne des coups durs. J'aimerais dire à toutes les filles gâtées, tous les garçons gâtés, vous êtes réellement gâtés. Gâtés, c'est pourri. Ne laisse pas tes parents te gâter. Lorsque tu sens qu'ils te gâtent, fuis cet amour qui te détruit. Dis-leur, traitez-moi comme tous les autres. Pourquoi est-ce que Joseph a eu des problèmes? C'était un enfant gâté. Les enfants gâtés ont des problèmes. Des fois, tous les autres se liguent contre eux. Chers parents, lorsque vous gâtez un enfant, vous blessez les autres, ils vont s'unir contre lui. Et lorsqu'ils deviendront grands, ils les feront souffrir parce que eux ont souffert de votre injustice. Imaginez, Ésaü est sorti du ventre de Rebecca. C'était lui l'aîné de la famille. C'était lui qui devait recevoir la bénédiction d'Isaac. Elle préfère son fils, déguise son deuxième fils pour qu'il reçoive, pour qu'il blesse son premier fils. Si Ésaü avait reçu la bénédiction, ça n'allait pas blesser Jacob. Parce qu'il était le deuxième. Mais quand Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, ça fait pleurer Ésaü. Mais sa mère était contente. Pourquoi? C'était son enfant préféré qui restait dans la cuisine et qui l'accompagnait quand elle préparait le foufou. Puis-je dire? Savez-vous pourquoi est-ce que Isaac aimait Ésaü? Il aimait Ésaü parce que Ésaü lui amenait quoi? Du gibier. Des parents qui aiment les enfants selon les cadeaux des enfants. L'enfant qui est aimé, c'est celui qui donne beaucoup. Votre sœur m'a acheté une voiture. Et elles font semblant, mais elles créent la compétition entre les enfants afin d'avoir des cadeaux. Maman, tu es politicienne. Papa, tu es politicien. Votre frère m'a encore acheté une veste. Qu'est-ce que tu veux créer dans les enfants? Une compétition. Comme il a offert une veste, moi j'offre une voiture et moi une parcelle et c'est toi qui récupères. Hein? Hein? Pourquoi aimes-tu beaucoup cet enfant-là? Parce qu'il t'amène l'honneur, la gloire. Il est le plus connu de tous les enfants. Voici mon fils. Et celui-là, il n'est pas ton fils?
lui n'est pas connu, c'est celui-ci. Lorsqu'un enfant devient une star, on prend des photos avec la star, mais pas avec les autres. On dit à tout le monde, c'est mon fils, mais jamais à l'autre qui fait la honte. Pourquoi aimes-tu ta fille? Parce qu'elle a épousé un grand médecin, parce qu'elle a épousé un grand homme d'affaires, et même d'autres qui créent des problèmes, même dans les foyers de leurs enfants. Ton mari ne me donne rien, mais le mari de l'autre m'a donné. Et puis maintenant, ça crée des problèmes dans les couples des enfants. Donne à mon père aussi, donne à ma mère aussi. Pourquoi? Parce que quand il y a réunion de famille, on se moque de son mari qui ne donne rien. Mais lui, il n'a rien à donner, il n'a que le loyer. Il n'a que le loyer. Dieu demain le bénira. C'est pourquoi, chers beaux-frères, n'entrez jamais dans les compétitions de vos belles familles. Il faut savoir discipliner la belle famille. Je dis, il faut savoir discipliner la belle famille. Et quand tu as une belle famille remplie de cupidité et de matérialisme, tu dois la tenir et sortir de leur rivalité et de leur mondanité. Je ne donne pas. Pourquoi? Je ne donne pas. Ah oui, hein? Oh, bon frère, toi, tu peux pas donner 100 euros. Te voir, c'est 1000 euros. 100 euros. Mais non, bon frère, 100 euros. Lorsque je cherchais à me marier, j'ai rencontré une fille et je l'ai amenée au restaurant. Et après, je suis allé la raccompagner. Et quand j'arrive chez elle, avant même que je descende de la voiture, sa mère vient et sa sœur vient. Et sa sœur me dit, « Pasteur Nzala, j'ai faim, shawarma. » Et la maman que je ne connais même pas vient vite. « Pasteur, comment tu n'entres pas ?» Je dis, « Ah ! » C'est seulement aujourd'hui que je viens me demander déjà les yaourts et les shawarma. Je ne viendrai plus jamais. Je n'ai pas épousé cette fille-là. J'étais en danger des poches. Je fuis. C'était un mauvais signe que c'était une famille matérialiste. Comment est-ce que vous pouvez demander du shawarma à un homme que vous venez de voir aujourd'hui? Et si j'étais un sorcier? Qui est célibataire? Garde ça, ça te sauvera dans la vie. Alléluia. Une famille dans laquelle le père est aveugle. La Bible nous dit que Isaac ne voyait plus. Et lorsque Jacob s'est déguisé en Ésaü, il n'a pas vu. C'est une famille dans laquelle les parents ne voient rien. Chers parents, savez-vous que les enfants d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont 12 ans, ils ont 25 ans? Ah, vous ne saviez pas, hein? Savez-vous que les enfants d'aujourd'hui, quand ils ont 12 ans, ils ont déjà des relations sexuelles? Ah non, vous ne savez pas. Savez-vous que vos enfants ont plus de choses à vous dire que vous à leur dire? Ah ça, vous ne saviez pas, hein? Savez-vous que lorsque vous dormez, eux sont réveillés, ils voient des films pornographiques? Ah ça, vous ne savez pas. Les parents, souvent, sont les derniers à savoir que leurs enfants vivent dans le péché. Lorsque j'ai commencé à vivre dans le péché et que j'allais regarder des films pornographiques à l'âge de 15 ans et que j'avais fini une collection de 70 livres pornographiques, mon père pensait que j'étais le doux Marcelo. Et je faisais quoi? J'allais dans sa boutique parce que ma mère avait une boutique, j'aidais un peu, après j'allais suivre un film. Et en ce temps-là, il fallait avoir 18 ans pour entrer dans ces films. Je me déguisais et je grossissais ma voix. Et je disais, ils ont gros yeux. Et je regardais ces films et je rentrais calmement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si ils m'observaient, ils allaient comprendre. Je ne suivais plus les films normaux. Rambo, c'était pour les enfants. Commando, les enfants. Je me moquais de mes amis. Ça, ce sont des films des enfants. Vous regardez quoi? Mais un jeune garçon qui se moque d'un film de Commando. Avec les téléphones que vos enfants ont, vous savez ce qu'ils regardent? Un enfant qui s'enferme dans la chambre des heures et des heures, vous savez ce qu'ils font? Certains enfants sont dans le lesbianisme, vous ne le savez pas. Beaucoup de parents ne savent rien. Pourquoi? Vous pensez que vos enfants sont toujours des bébés. Il y a longtemps qu'ils ne sont plus des bébés. Amen. Et surtout en ce temps-ci, en ce temps-ci. L'inceste dans les maisons, souvent il y a l'inceste entre les cousins et les cousines. Souvent lorsqu'ils viennent en va. Ah, vous ne savez pas? Pendant les vacances, cousins, cousines, faites très attention. Moi, au lieu qu'elle a raté. Ah, j'avais oublié, sorry. Ah oui, souvent les enfants apprennent tellement de choses à l'école, tellement de choses, et ils rentrent à la maison tout calme. Mais tu vois que son regard change. Il a des yeux sans innocence. Et quand tu le conseilles, il sourit là. Tu sais la sexualité? Aujourd'hui, il va dire à un enfant que les bébés viennent du ciel et qu'ils tombent dans le ventre de maman et maman vomit. Ils vont dire, arrête de mentir. Un jour, mon fils me dit, paraît-il que les enfants naissent comme... C'était vraiment ça. Je dis, hé? Je dis à Blanche, on ne dit rien. Comment c'est? Qui t'a dit ça? C'est mon ami à l'école qui m'a dit ça, que les parents... Je dis, ja. Un jour, un père va voir son fils et lui dit, pose-moi, j'aimerais parler, j'aimerais qu'on parle de sexualité. Et le fils lui dit, papa, qu'est-ce que tu aimerais ça pour apprendre? Quoi? Ouais, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Oh, tu sais ça? Ça, oui, mais il y a ça aussi, ça et ça. Ah, tu savais pas? Mais oui, ça aussi. Comment tu sais? Mais j'ai lu sur Internet. Si tu tapes www, ceci, tu trouves. Les parents sont dépassés aujourd'hui.
Totalement dépassés parce
qu'ils sont aveugles. Aveuglés par quoi? L'innocence de leurs enfants. Mais vos enfants ne sont pas toujours des innocents. Et des fois, vous les éduquez sans tenir compte qu'ils ont changé. Alors je sors, tu rentres à quelle heure? À 1h du matin? Pas de problème, pas de problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Sois sage. Non, être sage, c'est rentrer à 21h, 20h. C'est être sage. Mais ce n'est pas découcher et être sage. On est tellement moderne, mais nous engendrons qui? Nous engendrons des lesbiennes et des homosexuels. Lorsqu'on on éduquait les enfants à la vieille, il y avait moins d'homosexualité, de lesbianisme. Mais aujourd'hui, avec ce libertinage dans l'éducation des parents, voilà que nous engendrons des homosexuels et des lesbiennes. Nous engendrons des filles mères. Peu de filles aujourd'hui se marient tout en étant vierges. Si la robe blanche qui devait être portée lorsqu'on a un mariage était signe de virginité, nous aurons des robes rouges, de robe bleue et pas de robe blanche. Combien de femmes aujourd'hui se marient vierges? La virginité, on s'en moque aujourd'hui. Quand une fille est vierge, tout le monde se moque d'elle. Oh, vraiment. Et t'as jamais quoi? Mais t'as jamais. C'est-à-dire, t'as jamais péché. Il faut dire ça. Tu n'as jamais péché? Non, t'as jamais goûté. Non, t'as jamais péché. T'es toujours vivante, t'es pas morte. Et même les hommes se moquent des filles vierges aujourd'hui. Avant, les hommes cherchaient des femmes vierges, maintenant ils n'en veulent plus. Oh, elles ne connaissent rien du tout. Hein? Moi, je veux vraiment une chevronnée. Et vous imaginez, si même nous les hommes qui devons chercher des femmes vierges, on n'en veut plus, comment est-ce que nos filles vont garder la virginité? C'est rien, ce n'est qu'une petite membrane. Hein? Non, cette membrane est le signe que tu as du caractère, que tu sais dire non. Cette membrane est le signe que tu es une femme disciplinée. Et j'encourage toutes les vierges qui sont en ce lieu. Continue et continue et continue. C'est un grand cadeau que tu vas offrir à l'homme qui va t'épouser. Je dis, c'est un grand cadeau. Même si on se moque de toi, c'est un grand cadeau. Et si tu es entouré des filles qui veulent t'amener à perdre ta virginité, quitte ses amis, quitte cet entourage, quitte ce milieu. Alléluia. C'est une famille dans laquelle il y a la haine et la rancune. La Bible nous dit que lorsque Jacob a volé le droit d'aîné, c'est qu'il a pris la bénédiction d'Ésaü, il s'est enfui et Ésaü a décidé de le tuer. Dans la liste de tes ennemis, il y a qui? Il y a ton frère, il y a ta sœur. Il y a des gens ici qui ont comme ennemis leurs frères et leurs sœurs. Tu ne le salues pas, tu ne lui parles pas. Il est malade, tu ne le visites jamais. Quand il demande l'aide, tu ne l'aides jamais. Pourquoi? Ça fait 5 ans qu'il t'a fait ceci, qu'il t'a fait cela. Mais pardonne, parce que Ésaü a fini par pardonner à Jacob. Bizarrement, si un ami me blesse, je pardonne facilement. Mais quand c'est mon frère, je pardonne difficilement. Les familles se divisent rien que pour un oui et pour un non. Mais nous avons des amis d'enfance qui nous ont aussi fait du mal, mais que nous gardons jusqu'en ce jour. Mais quand c'est ton propre frère qui te blesse, du coup, tu le sors de ta vie. La haine. Et vous savez, la haine des frères engendre quoi? Des cousins qui ne se connaissent pas. Et ça divise comme ça la famille. Car les enfants héritent la haine des parents. Quand vous ne vous aimez pas, quand tu n'aimes pas ton frère, comment est-ce que les enfants chercheront leur oncle? Et comment est-ce qu'ils vont aimer leur cousine? C'est ainsi qu'il y a des familles qui ne se retrouvent que dans les deuils. Il faut que quelqu'un meure pour qu'on se retrouve. Et là, il y a toutes les présentations. Ça, c'est votre oncle, ça, c'est votre cousine. Profitez comme quelqu'un est mort. Ça, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est lui. On se retrouve dans 2 ans quand quelqu'un mourra. Comme ça, tu vas découvrir mon nouvel enfant. Des familles qui se retrouvent le 24 décembre autour d'un gâteau, autour du Père Noël. Des familles qui se retrouvent autour d'un mort, autour d'un malade. C'est quand on se retrouve, papa veut mourir et c'est tout le monde qui vient. Salut, 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 papa ça va, salut, salut, papa ça va, ça va. Oui, oui, aimez-vous, meurs bien et puis... Quelle est la dernière fois que tu as téléphoné à ton frère, que tu l'as appelé? Tu appelles tout le monde, mais est-ce que tu appelles ton frère? Et aujourd'hui, quand tout le monde est dispersé, celui-ci en URSS, l'autre en Afrique du Sud, l'autre au Congo, en France, on oublie même qu'on a des frères. Mais tu vas remarquer, malgré que vous êtes dispersés dans le monde, tu n'oublies jamais tes amis. N'est-ce pas que tu as un ami que tu téléphones tous les jours? Mais tu as oublié tes frères. Tu as oublié ton frère alors que vous avez grandi ensemble, vous avez dormi dans un même lit, vous avez mangé ensemble. Mais aujourd'hui, où est ta sœur? Où est ton frère? Dieu a dit à Caïn, où est-on, ton frère? Et qu'est-ce qu'il a dit? Suis-je le gardien de mon frère? Et c'est ce que nous répondons. J'ai maintenant ma famille, j'ai mes enfants. Qu'est-ce que j'ai à faire de mon frère? Mais c'est ton frère. C'est pourquoi, vous qui grandissez avec vos frères, malgré que vous avez des enfants, continuez, c'est si beau. C'est si beau que de voir des hommes qui ont 50 ans, 45 ans, 60 ans, mais qui sont unis comme quand ils avaient 18 ans. C'est tellement beau de voir les enfants du petit frère qui aiment tellement les enfants du grand frère. Mais la plupart des temps, ça n'arrive plus. Alléluia. C'est une famille dans laquelle tout se monnaie. Ésaü a faim. Il a faim. Il vient vers Jacob. Il dit, donne-moi la nourriture. Tu l'achètes. Quoi? Donne-moi le droit d'aînesse. Ce sont des familles dans lesquelles on ne fait rien pour rien. Quand il t'aide, tu dois l'aider. Il vient dans ta fête, il contribue pour que tu contribues aussi. Tout ce monnaie, on ne fait rien pour rien, on fait toujours avec un but derrière la tête. Même si on ne dit rien, il y a toujours un but. Tout ce monnaie dans cette famille, même quand on offre des cadeaux, en soi ce ne sont pas des cadeaux. Tout ce monnaie, tout s'achète, l'amour n'est pas véritable, tout s'achète. Il offre la nourriture, mais c'est pour avoir le droit d'aînesse. Un jour, je vois une fille qui vient au bureau. Elle ne pouvait pas étudier, elle va voir son oncle qui est riche. Et son oncle profite de cela pour coucher avec elle. Pour coucher avec elle, elle dit, si tu couches avec moi, je te paye les études. Mais quand elle couche avec lui, il escroque la fille. Il ne donne rien. Il dit, va m'accuser. Comment vas-tu accuser? Que va-t-il dire? Pourquoi aides-tu ta cousine? Pourquoi aides-tu ta jolie cousine? Pourquoi tu veux que ce soit seulement elle qui habite chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu lui fais? Tu la nourris, tu l'habilles, tu l'envoies à l'école. Mais qu'est-ce que tu as en retour? Si ces filles pouvaient parler et dire ce qu'elles subissent, des fois elles ne disent rien parce qu'elles ont peur du scandale et de diviser la famille. Pourquoi tu ne prends pas les garçons, seulement les filles? Pourquoi c'est seulement les filles qui viennent habiter chez toi, pas les garçons? Et même quand vous prenez les garçons, c'est pour en faire des esclaves. Il habite chez toi, mais il va travailler dur. Il ne va jamais se reposer. Est-ce que tu l'as aidé? Non, tu as monnayé. Bien-aimés, frères, sœurs, la plupart des temps, nous avons un rêve. Le rêve d'avoir une famille heureuse. Mais souvent, la réalité, ce n'est pas cela. D'un côté, on a une famille détruite et on vit dedans. On dort avec ces gens. On vit avec des frères bizarres, des sœurs bizarres, un mari bizarre. Mais on a le rêve d'avoir une famille heureuse. Et quand tu vois ce rêve, il est tellement loin de toi. Et des fois, tu perds la foi. Tu dis, ça n'arrivera jamais. J'aimerais vous dire la vérité. Jusque-là, ma famille élargie n'est pas parfaite. Ma famille restreinte n'est pas non plus parfaite. Mais je vis plus le bonheur dans ma famille restreinte et je lutte pour ma famille élargie. Il y a certaines choses même que je prêche ici. Ce sont des choses que je vis dans ma propre famille, dans la dimension de la famille élargie. Dernièrement, je vais à l'hôpital et je rencontre mes cousins, mes cousines. Beaucoup d'entre eux sont des médecins. Et me disent, pasteur, c'est pas bon qu'on puisse se retrouver à l'hôpital. Et je dis, c'est vrai, c'est pas bon. C'est quand je veux prêcher dans leur église que je les rencontre. C'est quand j'amène quelqu'un à l'hôpital que je les vois. Et ils disent, c'est pas bon. Pourquoi nous sommes en train de faire ce que nos parents ont fait? On a dit, nous sommes chrétiens, nous sommes différents d'eux. Et j'ai dit, c'est vrai, il faudrait que même une fois par année, même si nous sommes super occupés, que nous puissions nous retrouver pour que nos enfants se rencontrent. Sinon, un jour, nos enfants vont se marier. Ah oui, un jour, le cousin va épouser la cousine en URSS. Papa, je l'ai trouvé, je l'aime. Et quand ses parents viennent, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est ton cousin, c'est ta cousine. Mais tu m'as jamais dit que tu avais un frère en URSS. Même s'il y a une réalité que tu traverses, qui contredit ton rêve, continue à courir vers le rêve. Ne lâche pas ton rêve. Il arrive de fois, maman, que tu te dis aujourd'hui, ma famille sera la famille de mes rêves. Tu fais un effort et ton mari te dit, qu'est-ce que tu as là? Tu veux quoi? Mais je veux aujourd'hui qu'on mange tous ensemble. Oh, Didi. C'est bien dans les films, mais dans la vie, on est pressé. Ne renonce jamais à ce rêve. Ce rêve de prier avec tes enfants. Tu essaies un jour, tout le monde refuse, on ne prie pas. Demain, lutte encore. On va prier. N'abandonne pas le rêve. Alléluia. C'est pourquoi Josué dit, si vous, vous allez servir les idoles, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, pour qu'une famille soit restaurée, il faut le leadership d'un homme qui a compris la vraie vision de Dieu pour la famille. Et je prie ce matin qu'il y ait une génération de Josué qui prennent la décision d'influencer leur famille et d'amener la famille dans la restauration. Que Dieu fasse de toi le Josué de ta famille. Comment peux-tu savoir que tu es le Josué de la famille? C'est lorsque tu as un plus grand fardeau concernant le bonheur de la famille. C'est toi le Josué. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est toi Josué. Dans la famille, il y a toujours un qui aime la famille. Il y a toujours un qui parle famille. C'est lui le Josué. Et les autres n'ont pas le même fardeau que toi. Mais c'est toi Josué. C'est toi Josué. Même si c'est toi l'enfant, c'est toi Josué. Si c'est la mère, c'est toi Josué.
Il est plus facile d'amener le réveil lorsqu'on est le père. C'est pourquoi Josué a pu le faire. Mais si le père ne comprend pas, la femme peut prendre la relève. Et si la femme ne comprend pas, les enfants peuvent amener la restauration. Il y a des enfants qui amènent la vie de prière dans leur maison. Il y a des mères qui amènent la vie de prière dans leur maison. Quand le rêve est là, poursuis-le. David se réveille.
Dans 2 Samuel
11, verset 3 à 27. 2 Samuel 11, verset 3 à 27. Il voit la femme d'autrui. Qui voit la femme d'autrui? C'est David. Il la voit. Il la trouve belle. Il oublie qu'il a des enfants. Il oublie qu'il a une femme. Élisabeth, en ce temps-là, des femmes. Il envie la femme d'autrui. Il oublie même que cette femme est mariée. Tellement concentré sur son besoin,
sa convoitise, il oublie tout
ce qui est autour. C'est ce qui arrive souvent lorsque nous détruisons nos familles. Nous oublions les conséquences. Il prend cette femme parce qu'il est le roi. Il connaît la femme parce qu'il est le roi. Mais quelque temps après, la femme revient et lui dit « Je suis enceinte ». Là, la donne change. Il décide de tuer son mari et le tue. Et là, personne ne sait parce qu'il est le roi. Mais un prophète Nathan voit son adultère. Que Dieu nous donne des vrais prophètes qui ne prophétisent pas seulement les démons, mais qui parlent aussi du péché dans l'église, qui révèlent aussi l'adultère des hommes dans l'église. Le prophète lui dit, pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Désormais, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Cher papa, lorsque tu trompes ta femme et tu vas dans un hôtel très très loin, même s'il n'y a point de caméra, il y a la main de Dieu, l'œil de Dieu qui t'a vu. Et il y a une porte que tu as ouverte à l'ennemi. Ses enfants étaient soumis avant l'adultère. Ces enfants vivaient dans l'amour avant l'adultère, dans l'unité avant l'adultère. Mais lorsque seulement David a pris la femme d'autrui, tout a changé. Papa, des fois lorsque tes enfants ne t'obéissent pas, il faut te poser la question si tu obéis à Dieu. Car la rébellion du père envers Dieu amène la rébellion des enfants vers le père. Oui, papa, lorsque tu n'es plus un modèle, c'est difficile que tes enfants se soumettent. C'est difficile de se soumettre à un père infidèle qui trompe la maman. Les enfants sont blessés et ils ne savent pas te respecter. Tu vas gueuler sur eux, ils vont te dire, ah oui, tu gueules sur moi. Mais je t'avais vu quelque part avec quelqu'un. Oh ben. Tout allait bien. Mais quand Samuel a pris la femme d'autrui, la Bible nous dit que Amnon a désiré sa propre sœur. L'inceste est entré dans la maison de David à cause de l'adultère. Et qu'est-ce qui arrive? Amnon viole sa sœur. Le viol est entré dans la maison à cause de l'adultère parce qu'il avait aussi pris la femme d'autrui. Tu trompes ta femme, on viole ta fille. Et qui viole ta fille? Son propre frère. Et lorsque le frère de Tamar apprend cela, il tue Amnon, meurtre dans la famille à cause de quoi? De l'adultère du père. Un enfant peut connaître un accident parce que le père vit dans le péché.
Je répète, un enfant
peut connaître un accident parce que le père vit dans l'adultère. Pourquoi? Père, tu es une ceinture, une muraille pour tes enfants. Quand tu crains Dieu, tu protèges les enfants. Mais quand tu vis dans le péché, tu livres tes enfants à Satan. Il en est de même pour les mères. Tu trompes ton mari et tu rentres à la maison, tu prépares la nourriture et tu donnes à tes enfants. Tu maudis tes enfants. La mort est entrée, l'inceste est entré, la rébellion. Son propre fils Absalom l'a chassé du pouvoir. Il ne savait pas qu'il était assis sur la sainteté mais pas sur un trône.
Oh.
David pensait qu'il était roi parce qu'il était fort. Il était roi parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu. Le jour où il a perdu la crainte de Dieu, son fils l'a chassé. Papa, tes affaires prospèrent parce que tu crains Dieu. Le jour que tu ne craindras plus Dieu, tu deviendras pauvre. Excusez-moi ce matin,
L'Esprit veut que je parle ainsi, un peu durement. Car, bien aimé, être intelligent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il faut être fidèle à son mari, fidèle à sa femme. Tes affaires peuvent dégringoler parce que tu fais pleurer la femme de ta jeunesse. Tous les clients s'en vont. Pourquoi tu fais pleurer la femme qui t'a accepté lorsque tu étais pauvre? Qui chasse David? Son propre fils le chasse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses femmes. Comme lui avait pris les femmes, la femme d'autrui. Lui fait ça fois deux, fois quatre. Car le disciple est toujours meilleur que le maître. La plupart des fils sont impudiques à cause de l'impudicité de leur père. Absalom prend les femmes de son père. Mais Absalom finit aussi par mourir. David a perdu combien de fils? 1. Il a perdu Amnon. 2. Absalom. Mais il a aussi perdu le bébé qui était dans le ventre de Bathsheba. 3 enfants à cause de l'adultère. La mort est entrée. Alors que je suis dans cette ville, j'ai mes enfants avec moi. Je n'oublie jamais Oracle, jamais Shifra, jamais Shukrani. Je sais que si je fais le mal, l'ennemi va les toucher. Car le démon qui a la victoire sur le père aura la victoire sur les enfants si les enfants ne sont pas forts. Cher papa, lorsque tu te livres au mal, tu ouvres la porte à l'ennemi. La Bible nous dit que lorsque Abraham a donné sa dîme à Melchisédek, Lévi l'avait fait dans ses reins, mais n'était pas encore né. Ce qu'il a fait devant Melchisédek a touché Lévi, mais qui n'était pas encore là. Et alors s'il était là, lorsque tu vas dans la maison d'un féticheur, lorsque tu vas faire l'occultisme, tu es en train de livrer tes enfants. Tu livres tes enfants, ils ne sont pas là, mais ils sont en toi. C'est ton sang, c'est ton sang. C'est ainsi que vous remarquez, il y a deux sortes de familles. Il y a des familles, je ne sais pas si vous avez étudié avec ces gens-là. Il n'est pas très intelligent. Il n'a rien de grave. Tout ce qu'il fait réussir, c'est comme s'il a quelque chose. Vous terminez ensemble, lui on l'embauche. Mais toi tu fais 10 ans qu'on t'embauche. Juste là on ne t'a pas embauché. Mais tu étais plus intelligent que lui. Tu lui expliques la matière et il réussit. Mais toi qui es expliqué, tu es chaud. Tout est dur pour toi, tout est facile pour lui. Et tu ne vois pas ça seulement en lui, dans ses autres frères aussi. C'est comme s'ils ont quelque chose dans leur famille. Et on appelle ça fétiche. Ce n'est pas toujours le fétiche. Peut-être il y a un homme dans la famille qui a craint Dieu. Et qui a répandu la bénédiction sur les autres, comme Abraham a répandu la bénédiction sur les Juifs. Mais il y a d'autres familles, bizarrement. Ils sont intelligents, ils ont tout. Mais tout est dur. Tout est compliqué. Donc ils doivent toujours lutter pour tout. Pour tout, c'est dur. Tout, c'est dur. Cham a ouvert la porte dans la vie de Canaan. N'ouvre pas la porte dans la vie de tes enfants. Aimer ses enfants, ce n'est pas seulement leur donner la nourriture. C'est se sanctifier pour eux. Oui. C'est craindre Dieu pour eux. Il y a des gens qui naissent sans combat. Ils trouvent une bénédiction. Mais d'autres, ils naissent, ils trouvent des combats. Ils doivent chasser, ils doivent prier. Mais il y a d'autres qui naissent, ils trouvent déjà la bénédiction qui attend. Laisse la bénédiction à tes enfants. Ils naissent, ils trouvent la grâce de Dieu. Mais qu'ils ne laissent pas trouver la honte. Ah, tu es le fils de qui? De ce papa-là qui avait violé la fille-là. Ah, c'est ton père. Tu es le fils de qui? Du prédicateur qui a amené le réveil en France. Ah oui, je le connais. Et tu as bien. Que tes enfants soient fiers de citer ton nom. Je suis le fils de... Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis fils d'Abraham, le père de la foi. Mais est-ce que tu peux dire, je suis fils de Caïn, le premier meurtrier? Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais responsabiliser les pères. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans le monde? L'homme qui devait être le plus spirituel dans la maison est devenu le moins spirituel. Les départements d'intercession sont remplis des femmes, les chorales des femmes. Les départements des papas ne fonctionnent pas dans les églises. Je ne sais pas si dans votre église ça fonctionne. Les hommes viennent, déposent leurs femmes. Priez, moi je vais chercher. Les personnes les plus charnelles des maisons sont les papas. Et les personnes les plus charnelles dans les églises sont les papas. Alors que c'est l'homme qui est le sacrificateur de la maison, nous sommes devenus les personnes les plus charnelles dans les églises, les personnes les plus charnelles dans nos maisons. C'est la femme qui jeûne, qui prie, papa dort et ronfle, il a des visions. Retrouvez votre place de leader comme Josué. C'était un homme, c'était un papa, c'était un papa. Papa Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mais souvent, vous laissez cette place à nous les pasteurs. Mais tu es aussi le pasteur de ta maison. C'est toi qui dois connaître la parole. C'est toi qui dois avoir l'onction. Quand les enfants sont malades, ils doivent venir auprès de papa pour que papa chasse les démons. C'est papa qui doit avoir la sagesse et la connaissance de Dieu. Alléluia. Abraham était un papa. Isaac était un papa. Jacob était un papa. Pierre était un papa. Mais aujourd'hui, les papas ne sont pas spirituels. Écoutez-moi, lorsqu'il y a même la louange, nous les papas, est-ce qu'on danse? Mais les femmes, elles dansent, elles dansent. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes deviennent les leaders dans les maisons. Pourquoi? Celui qui cause avec Dieu est en avance par rapport à toi, même si tu as le pantalon. Oui, cher papa, si tu veux récupérer le leadership dans la maison, tu dois devenir spirituel. Pourquoi? Si toi tu causes avec ton PDG, elle cause avec le Dieu de ton PDG. Ah, oui, si. Elle peut même prier pour tes chasses du boulot et on te chasse du boulot. Oui, eh, oui, je vous assure. Si Blanche commence à beaucoup prier, ah, moi si je prie. Moi si rien de basata maman. Pourquoi? Ah, Marcelo, j'ai vu un ange. Moi j'en vois pas. Ah Dieu. Oh Jésus, m'est apparu. Ah Jésus. C'est comme si le ventre a les yeux, mais non, la tête n'en a pas. C'est un monstre. C'est toujours papa. Chérie, le verset là, c'est Jean 10, verset 7. Non, chérie, Jean 10, verset 2. Ah, c'est vrai. C'est papa qui mange toujours quand on jeûne. Chérie, j'ai mangé, je veux faire. Même les enfants savent. Quand il y a un démon qui les attaque, maman, papa, parce que papa lui-même fuit aussi. Je connais un papa dans la maison, quand il y a des démons, lui aussi fuit, les enfants fuient, lui aussi fuit. Mais la maman, au nom de Jésus, je scelle cette maison, au nom de Jésus, on vient se cacher derrière qui? Derrière maman! Retrouvez votre place, papa, je vous défie, retrouvez votre place, lisez la Bible, priez, jeûnez, soyez des leaders spirituels dans vos maisons. Qui détruisent le culte dans les familles? Les papas. On commence le culte de famille, il commence à ronfler. On commence le culte de famille, il vient toujours en retard. Et quand on partage la Bible, si ça le touche, il se fâche. Je vois que dans cette maison, on commence à blaguer avec moi. Vous commencez à en profiter pour me parler. Hein. Plus de culte dans cette maison. Mais quand même, nous les enfants, si on exagère dans les cultes de famille, on en profite aussi. Ainsi parle le Seigneur. Georges, je te dis d'aimer ta femme et tes enfants. Cesse d'être colérique. Ainsi a parlé l'Éternel. On faisait ça aussi. Et puis, c'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. J'invite aujourd'hui tous les papas devant, les pères. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'invite les pères, tous les pères. Acclamons les pères. Acclamons les pères, acclamons les pères. Acclamons les pères. Acclamons les pères, acclamons les pères. Plus fort les mamans, acclamons les papas. aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de ne prier que pour les pères, car il est écrit, moi et ma maison. C'est un homme qui l'a dit. Amen. Si mon père était le leader spirituel de ma famille, c'est sûr que je me serais converti même à l'âge de 10 ans. Mais c'était maman. C'est maman qui nous poussait à la prière. C'est maman qui a cru en mon ministère avant mon père. S'il était spirituel, ça allait aller plus vite. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous tenir les mains et demander à Dieu que vous puissiez assurer le rôle que Dieu vous a donné de leader dans vos maisons. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, ce n'est pas facile d'être un père. C'est pas facile d'être un père. Oh Dieu, c'est dur. C'est dur d'être un père. Oh Dieu, c'est tellement difficile. C'est une trop lourde tâche, un grand poids, Seigneur, pour des épaules humaines, que d'être un modèle, que de pouvoir aux besoins de la famille. Seigneur Dieu, sans ton aide, ils ne peuvent rien. Je prie pour tous les papas ce matin. Je prie pour tous les pères ce matin. Comme Josué, qui deviennent des leaders spirituels dans leur maison. Je demande l'action de ton esprit. Je demande ta force dans leur vie. Je prie que ce soit des hommes fidèles, des hommes intègres. Je prie qu'ils soient des modèles, Seigneur Dieu de gloire, pour leurs enfants et pour leurs femmes. Je paralyse toute puissance de l'ennemi qui les combat. Je détruis toutes les œuvres de l'ennemi, Seigneur, qui renversent leur leadership. Que Dieu fasse de vous des leaders. Que Dieu fasse de vous des leaders. Des leaders de restauration, des leaders de changement, de réveil dans vos maisons. Que désormais, dans le secret et en public, vous soyez des modèles. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.
Je prie qu'ils te connaissent le plus rapidement que possible.
Je prie, Père éternel, que
ta destinée dans sa vie soit claire. Je prie, Père éternel, que tu gardes ses parents ensemble, afin qu'ils soient des modèles pour lui. Je détruis les projets de l'ennemi dans sa vie. Je te l'abandonne, corps, âme et esprit. Je prie pour l'Éternel qu'il croisse en stature, en sagesse, en intelligence, devant Dieu et devant les hommes. Je prie pour l'Éternel, mon Dieu, qu'il soit une source de joie pour l'Église, pour le monde entier, pour quiconque le rencontre.
Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette bénédiction
que tu accordes au monde et donne, Seigneur, à le révéler le plus tôt que possible. Je te déclare béni, béni, et béni, et je te consacre au Seigneur. Amen.
Amen. Est-ce qu'on va faire le son pour être plaisir? Voilà, c'est la famille Salvador qui est là aujourd'hui.
Monsieur et Madame Salvador, ils ont ramené
Josué.
C'est bon.
Que également, Pasteur Marcelo puisse prier, consacrer cet enfant.
Seigneur Dieu, je te consacre. Ce miracle et que sa vie soit une vie miraculeuse. Il ne puisse pas tarder dans le monde, mais je demande, Seigneur, que tu bénisses ses parents, j'anéantis le projet de l'ennemi et je bénis son corps, son âme, son esprit.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
www.casarema.fr.
Alors, pour la journée, je bénis l'Éternel. On est vraiment bénis pour la journée. Et je bénis Dieu de tout ce qu'il a fait à travers son serviteur, Pasteur Marcelo Tounassi. Vraiment, c'est un pasteur que j'apprécie beaucoup parce que lui, son enseignement, il est surtout basé sur la sanctification. En tout cas, on a été bénis. De toute façon, vous suivrez par l'image. Vous verrez ce que Dieu a fait à travers son serviteur. Soyez bénis.
Vraiment richement édifié. Vraiment chapeau, chapeau bas. Que la gloire de Dieu soit manifestée encore dans la vie de cet homme-là.
D'accord. Et votre nom, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Myriam.
D'accord. Vous n'avez pas un message de vie par rapport
à... C'est grâce à Casarema que je suis ici. Je sors du 78. Okay. Sachez que cette œuvre-là, je demande vraiment à Dieu de la bénir encore, vraiment, et tous mes voeux de bonheur pour Casarema et pour nos assemblées évangéliques en France. Amen. Amen.
Et vraiment, c'était super. J'ai béni le Seigneur encore de me donner la souffle de vie. C'est le dernier dimanche du mois. Et puis, béni par l'homme de Dieu venant de loin, le pasteur Marcelo. Donc, c'est très bien passé. Vraiment, que cela puisse nous apporter encore de bonnes choses. Et que l'homme de Dieu a surtout parlé sur les familles. Donc, surtout nous, en Europe, on vit dans le brisement des familles et tout. Pour moi, vraiment, j'ai reçu beaucoup de choses.
D'accord. Et un message de...
Ben, tout ce que je pourrais dire, que le Seigneur vraiment comble tous les chrétiens et nos croyants vraiment la grâce et puis de connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie, enfin, de bénéficier d'une grâce particulière.
Merci, maman.
Merci.
Bonjour, papa.
Votre nom, s'il vous plaît.
Moi, je m'appelle Maman Élisée.
Oui. Il y a un mot par rapport au message du pasteur.
Bon, ben, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé. La parole, vraiment, on nous a parlé de la famille. J'ai été touchée, vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Et vous n'avez pas un message de vie par rapport à la famille?
Ben oui, par rapport à la famille Maranatha, par rapport à la famille chrétienne. En tout cas, je souhaite bonne année, bonne santé et surtout de bonnes, beaucoup de bonnes choses pour la famille du Christ.
Merci.
Merci.
Bonjour mon frère.
Votre nom s'il vous plaît.
Ah ben je me présente, je suis le frère Biba.
Ok. Frère Biba, un mot par rapport au message du pasteur.
Ah vraiment, je bénis le Seigneur et je bénis son serviteur pasteur Marcelo parce qu'il nous a vraiment bénis par rapport au message que le Seigneur avait mis dans son cœur à ce qui concerne la restauration de la famille. Parce que à travers son serviteur, il nous a vraiment bien expliqué la façon que l'ennemi est en train de détruire nos familles, est en train de détruire nos vies. Il nous a montré la puissance de Jésus-Christ parce que c'est par lui que Dieu a détruit tous les effets, toutes les tactiques que le diable avait instaurées, avait posées dans nos familles. Vraiment, pendant ces deux jours, je suis vraiment, vraiment, vraiment béni. Et que le bon Dieu bénisse aussi son serviteur et sa femme aussi, Maman Blanche.
Ok, d'accord. Et vous n'avez pas un message de vœux par rapport à...
Par rapport au message de vœux, la première personne à donner mes vœux, d'abord à toutes mes vœux à Pasteur Marcelo et à sa femme Maman Blanche, y compris son ensemble en République démocratique du Congo. Vraiment qu'il y ait de bonnes choses pour l'année qui va commencer. Et je donne aussi à toutes mes vœux, à toute ma famille, à ma maman au Congo, à mes frères, à mes sœurs. Je donne mes vœux à mon associé Alain Sebois. Donc, je donne toutes mes vœux à toute la famille chrétienne. Vraiment.
Merci, que Dieu vous
bénisse. Gracia.
Sœur Gracia, un mot par rapport au message du pasteur.
Ben, en tout cas, nous avons été très bénis. Nous remercions le pasteur Marcelo d'avoir fait le déplacement pour nous apporter ce merveilleux message. Donc, nous lui disons un grand merci. Franchement, c'était un très beau message. Nous avons été remplis encore... je veux dire encore plus, il nous a vraiment beaucoup apporté. C'est un pasteur déjà que nous, venant de Saint-Nazaire, on suit tous les jours. Donc là, on a eu l'occasion de le voir ici sur Paris, donc on a fait le déplacement. Donc on n'a pas été déçus, ça c'est vrai. Donc le petit mot, je dirais que le Seigneur puisse apporter encore beaucoup, beaucoup plus au pasteur spirituellement, qu'il puisse l'aider vraiment à progresser dans son ministère et qu'il puisse continuer à nous nourrir aussi spirituellement. Donc voilà.
Et un message de vœux.
Tous mes vœux de bonheur, la santé. La santé, c'est ça qui est le plus important. Garder la foi toujours dans le Seigneur. Garder la foi, toujours persévérer. Ne jamais abandonner dans le Seigneur. Et voilà, que le Seigneur puisse nous garder. Que tout ce que nous n'avons pas pu avoir en 2014, en 2015, je suis sûre et certaine qu'on les a déjà eus. Et voilà, je souhaite tous les vœux de bonheur pour ceux qui vont se marier, pour tous ceux qui... pour tous ceux qui vont avoir des enfants, pour tous ceux qui passeront leur diplôme. Donc j'accorde tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et on dit Amen.
Amen.
Anga kombo nanga frère Christian.
D'accord. Frère Christian, un message moro par rapport à Maté Anenge passé Marcelo Teibiso.
Ouvre, tout inga venu d'agir mon tour. Il a l'air après célébrer l'histoire. Il y a Noé. Ils ont l'air de montrer capital vraiment. Et Sungi biso le supplice dans l'avenir. L'air à zolo banaba parole tout souhaiter à nabana. L'air à naba mabé obiso salara où ils allaient survenir en plus encore naba descendance nabiso. Donc il fallait pena kota lango malam. Kota lango vraiment malam. Kota mbola le lenge mon groupe a bien pour na kosunga ba descendance
nabiso. Merci frère Christian. Et bon mon message à vaisseau que zali pour na famille pe batnos bola na personne à Kazarema.
Un message à Vézali Kara. Au moins, il y a tout côté habitué restauration. Le lingue est aussi restauré. Tout appliqué en plus en 2015 pour nous recevoir plus encore de bonheur. En tout cas, ceux qui n'ont pas eu de sur place, nous avons eu de bonheur plus de bonheur. Puisque ma tête est surtout le qui est dans la case Arema. Alors, il y a eu de verser plus dans l'application et de la malam. Il y a une bénédiction à la totale. Sinon, sans cela, je ne crois pas.
Merci, frère Christian. Merci, nous avons pas mal.
Was really edifying. The preaching was really brilliant. I like it. It's kind of like helping me a lot with the families and that. So I am really thankful and I thank God for His servant. And it was really amazing being here. And I thought it wasn't a waste of time coming here. It was really amazing. I said thank to God for it. Cheers.
Ok, merci mon frère.
Maman Perpetit Kabundi, Lilo Bana le Bike, en tout cas, Malbate, Yezako, ba maman va tout ça, ba papa va tout ça, ba maman. Na Monique, ça, Penzeza, Moutouya Ponanga, na Sengi, ba maman, ba papa va tout ça, ma bala na bango. Et na Koki Gopé, ça, le cola, Blaise Manzambi, na Lise, bonne année, et puis bonne fête. Na kopesa aussi mwana nanga Ose Kabundi, Rose Kabundi, François Kabundi, Guilé Kabundi, Natasha Kabundi et puis Rose Kabundi pe et puis Andy Batwakaya Junior et puis Rose Amber Rose et puis na bana nanga nyoso.
Je tenais à sensibiliser toutes les jeunes filles parce que vraiment Dieu il a fait des bonnes choses et voilà quoi, j'ai vu la grâce de Dieu se manifester et que vraiment il faut suivre la voie du Seigneur parce que c'est la meilleure des choses. Voilà. Bonne année, plein de réussite, plein de bonheur. Que l'année 2014, que Dieu fasse des bonnes choses, qu'il a fait en 2014, qu'il le refasse en 2015. Et voilà, soyez bénis, vous tous.
Bonjour, je me réveille. Franchement, j'ai aimé, ça s'est bien passé, on a appris beaucoup de choses. Puis, c'est très intéressant. Puis ça motive pour connaître plusieurs choses sur le Seigneur.
Le pasteur Marcelo apprend beaucoup de choses sur Dieu, sur Jésus-Christ. C'est très intéressant et voilà. Les personnes qui suivent pasteur Marcelo, venez le voir, ça touche encore plus. Moi, je souhaite à ma famille, à mes amis, mes proches de continuer comme ça, de continuer à apprendre Jésus, à garder la vie avec Dieu. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Neftalia. Le message du pasteur, il a été très enrichissant pour les familles, pour les personnes qui sont mariées et pour les célibataires aussi, pour nous les enfants. Bonne fête à tous, passez de bons moments dans le Seigneur, bien sûr. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous aussi.
Mon nom, c'est Destin. Non, c'était vraiment édifiant, c'était vraiment impressionnant. Dieu était là, Dieu était présent au programme. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens qui ont même témoigné la gloire de Dieu et tout. Donc voilà, c'était merveilleux. Même la vérité nous a vraiment affranchis, comme la Bible le déclare. Oui, bonne fête, voilà, meilleurs vœux, tout ça, et que Dieu soit au contrôle. Voilà, et demeurons tous ensemble par la gloire de Dieu. Soyez bénis.
Bonjour, ouais. Je m'appelle Gabi. Ouais, j'ai trouvé ça très très bien. Ça s'est très bien passé. J'ai trouvé ça très profond. Et surtout, c'était très... comment dire, j'ai beaucoup appris par rapport à ce message. Ça m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à la vie, par rapport à comment se comporter envers les parents, comment se comporter par rapport à la famille, tout ça. Ça m'a beaucoup fait... voilà. Ouais, je leur conseillerais de suivre Casarema sur Internet et d'aller plus vers le Seigneur, de venir à l'église, parce que c'est quelque chose de très important. Mon année, joyeux Noël, passé une excellente année, 2015, donc voilà.
C'était trop émouvant, très émouvant, très 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 émouvant, et ça nous va droit au cœur. Surtout moi, ça va droit au cœur, puis ça me touche beaucoup. Ben, que tous les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils aillent à l'église, qu'ils louent Dieu sincèrement et que Dieu le touche. Et que tout le vœu que je leur donne, que le bon Dieu le touche sincèrement dans leur famille. S'il y a les familles qui sont déchirées, que l'Éternel Dieu veille sur eux.
On a été richement bénis, c'est évident. Je ne suis pas la seule à avoir cette impression. Effectivement, nous traversons une période où la famille est en crise et du coup l'Église aussi en crise. Et il est évident, effectivement temps qu'on ait de ce genre de messages pour que l'Église soit restaurée, étant donné que, comme l'homme de Dieu l'a dit, hein, l'Église, c'est la famille, c'est la cellule de l'Église, la cellule de base. Si les familles sont en crise, serait difficile que l'Église soit en santé. Donc, véritablement, Dieu bénisse son serviteur, qu'il élève davantage et qu'il utilise davantage à faire encore de grandes choses. Voilà. Devait, ben oui, que cette année 2015 soit une année où chacun puisse obtenir ce qu'il n'a pas pu avoir en 2014. Que ce soit une année de moisson. Parce que 2014 a été très difficile. Que l'année 2015 soit une année de moisson pour nous. Voilà. De rien. Merci. Merci. Non, Madame Ballet.
De rien. Bonjour. Donc, je m'appelle Lydie. Oui, donc vraiment, le message qui a été prêché aujourd'hui est très important pour vraiment la restauration des familles. Parce que en fait, c'est Dieu qui donne la famille. C'est Dieu qui choisit aussi les parents. Donc c'est vrai que l'homme de Dieu a vraiment insisté pour que chacun honore son père et sa mère, afin que ses jours soient prolongés, que chacun puisse aider sa famille, hein, surtout ne pas oublier sa famille, parce que on peut pas être béni autrement si on abandonne les siens. Même si on veut servir l'Éternel, c'est pas possible en fait. Et vraiment, il y a eu vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous, parce que nous avons tous plus ou moins été attaqués dans nos familles. Donc, il est temps de se lever pour récupérer ce qui nous a été volé par l'ennemi au nom puissant de Jésus. Donc vraiment gardez courage, faites confiance à l'Éternel et demeurez bénis. Voilà. Voilà. Ben de vœux vraiment que vraiment cette année qui s'achève et celle qui commence soit vraiment une année de restauration pour vos familles. Et vraiment une année où vous puissiez expérimenter surnaturellement la grâce de Dieu, car le Seigneur Jésus vous a choisi. Donc vous devez vraiment exceller, ne pas vous décourager. Et vous êtes la tête et non la queue. Donc, continuez à suivre l'Éternel et persévérez. Vous allez recevoir la bénédiction que Dieu veut vous donner. Soyez bénis. Amen.
Mais le message a été magnifique et très, très, très édifiant. Et les cernières vraiment nous a beaucoup parlé. Et nous avons besoin de tels messages pour enseigner encore la bergerie. Et nous, ces brebis, nous avons besoin vraiment d'être encore beaucoup plus enseignés. Parce qu'il y a certaines choses que nous ignorons et nous ne pouvons bien le reconnaître et être attentifs à ces genres de messages que si seulement nous les gardons, donc nous mettons ça en pratique. Donc voilà, tout ce que je peux dire. Bon, message de feu, franchement, j'ai salué toute la famille, toutes les personnes qui vont me reconnaître et également toutes les personnes qui ne me reconnaissent pas, voilà. Et également, que le Seigneur vous bénisse et bonne année 2015.
Oh, j'ai été vraiment touchée par rapport au message. Déjà, depuis hier, le pasteur Marcelo nous demande de pardonner. Et j'ai été vraiment touchée parce que j'ai toujours... par rapport à la Bible, le Seigneur nous demande de pardonner parce qu'il y a une puissance derrière le pardon. Donc, j'étais vraiment satisfait du message. Alors, je souhaite les meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent pour l'année 2015, que cette année leur apporte beaucoup de bonheur et que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse et attire beaucoup qui ne sont pas encore en Christ, de donner leur vie à Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure vie.
Je bénis seulement l'Éternel parce que cette semaine, comme on a semaine de marathon, et donc ces mois-ci, jusqu'à le 15 janvier, comme on a tant de marathons, c'est des choses que nos pasteurs sont en train de nous dire tous les jours. Ils répètent que vous êtes des leaders de la famille, vous êtes des leaders, vous êtes des leaders. Donc aujourd'hui, on a eu comme la confirmation. C'est un prophète qui est venu de loin, qui vient nous confirmer que donc là où nous demeurons, on est toujours dans un bon endroit, mais nous bénissons les dieux de Pasteur Marcelo parce qu'il a rapporté un nouveau vent encore pour 2015. On va encore restaurer nos familles, on va encore supporter nos familles, on va encore réparer, on va encore exercer encore le pardon, plus par rapport à ce qu'on a déjà entendu et ce qu'on a entendu encore. Donc on va toujours demeurer, comme on est toujours dans la famille chrétienne, donc on va toujours demeurer toujours à faire ce qui est bien, quoi. Donc notre modèle, il nous a répété encore, il nous a rappelé que c'est Jésus-Christ. Donc pour moi, je vais dire seulement aux gens, accroche-vous à Jésus. Accroche pas aux hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Pasteur Marcelo peut partir, comme lui-même a dit, que moi, je suis l'homme né de sang. Mais on préfère prendre notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je préfère dire aux gens, réveillez-vous, dans Maranatha, Jésus revient bientôt. Donc prépare.